Bienvenue pour votre rendez-vous avec l'école Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers, professeurs et même boulangers échangent sur les innovations et les bonnes pratiques du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Il y a à peu près un an, la baguette française a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pourtant, la consommation quotidienne de pain ne cesse de baisser en France. Et le pain au levain a en revanche de plus en plus de succès. Quel avenir donc pour la boulangerie artisanale ? Qu'est-ce qui fait un bon pain ? Quelles céréales privilégiées ? Peut-on faire des viennoiseries véganes ? Quelle gourmandise va succéder au New York Roll ? À quoi ressembleront le pain et la boulangerie de demain ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Aujourd'hui, autour de la table, il est chez lui, Didier Chaput. Bonjour.
Bonjour.
Apprenti à 15 ans, passé chez un meunier, vous êtes formateur en boulangerie depuis 17 ans chez Ferrandi. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Au département international depuis 7 ans. Mmh. Et vous venez de sortir un ouvrage. Alors, le titre exact, dites-le-moi, pain et viennoiserie ?
Alors, en français, c'est boulangerie-viennoiserie.
Ok. Donc, chez Ferrandi, c'est ça, c'est les éditions. Alors,
C'est les éditions Flammarion.
Les éditions Flammarion. Et en tout cas, c'est une parution de l'école Ferrandi. Anthony Courteil est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Apprenti en boulangerie, vous êtes petit à petit tourné vers les cuisines jusqu'à officier dans les cuisines de grands chefs tels que Guy Martin ou Guy Savoie. Vous avez finalement ouvert votre propre table matière A. C'était au début des années 2000. Depuis 2018, le lieu s'est transformé en boulangerie Saint, S-A-I-N, que vous qualifiez de rustique chic. On est rue Alibert, dans le 10e arrondissement de Paris, qui vient de se doubler d'un salon de thé rue des Gravilliers, dans le 3e arrondissement. C'est bien ça ?
C'est tout à fait, ouais. Très bien.
Julien Cantenot est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Issu d'une famille de meuniers et de fabricants de pain, le métier vous a rattrapé après votre école de commerce. Bah ouais, ça arrive. Quelques ouvertures de resto, des formations express chez Ferrandi et à l'école internationale de boulangerie à Sisteron et surtout l'amour de la confection du pain que vous pratiquez chez vous et partagez depuis 2019 avec le grand public avec Atelier P1, Atelier Boulangerie. On est rue Marcadet dans le 18e arrondissement de Paris et vous venez également le compléter d'un restaurant quelques numéros plus loin. La première question que j'ai envie de vous poser finalement c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire du bon pain et un bon boulanger ? Alors, on va commencer avec vous. Denis, qu'est-ce qu'il faut pour faire du bon pain ?
Ben, il faut avant tout des bonnes matières premières. Donc, il faut d'abord savoir d'où vient notre farine et avoir une bonne traçabilité de cette farine. Il faut avoir une philosophie, je pense. Il faut qu'on soit en accord avec ce que l'on fait et pas faire du pain simplement parce que les autres font des baguettes. On fait faire des baguettes comme les autres. Il faut avoir sa propre personnalité. Il faut savoir il faut mettre sa propre personnalité dans les produits. Et je pense que les clients reçoivent cette passion et cet amour que l'on peut mettre dans nos produits.
Donc c'est ça, finalement le pain, ça reste de la farine, du levain, du sel et de l'eau. C'est bien ça, je n'oublie rien.
Ouais.
Mais en fait, Anthony, c'est quand même beaucoup plus que ça. Et c'est bien votre vision à tous les trois.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'un des secrets du pain ou de cet artisanat, c'est le temps. Vraiment, ça, c'est la base, le fondement, c'est le temps. Et bien sûr, comme disait Didier, il y a les ingrédients, une réelle traçabilité des ingrédients. Et puis après, la personnalité du boulanger, elle est super importante parce que c'est ce qui va donner le goût du pain, c'est ce qui va donner vraiment pourquoi est-ce qu'on va chez cette boulangerie-là et pas à l'autre, parce qu'il y a, il y a le cœur qui est là, il y a une réelle personnalité. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques années, on a un petit peu standardisé un peu tout le monde de la boulangerie avec des matières premières qui étaient assez standardisées par rapport aux meuniers, en fait, de la part des meuniers. Et du coup, on s'est retrouvé avec une boulangerie de quartier qui ressemblait à celle de l'autre quartier. Voilà, ça manquait un peu de personnalité.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a multitude de céréales, notamment que vous travaillez.
Exactement, ouais. Il y a beaucoup plus de céréales. Et puis, il y a eu un engagement aussi d'une nouvelle génération de boulangers, comme Julien, comme moi, comme les futures générations qui vont venir.
À Paris, nous avons quand même de la chance. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de propositions ces dernières années par rapport à il y a 20 ans. On a plusieurs propositions. Mais Didier, quand Anthony parlait du temps, Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on voit bien, notamment, le levain a son importance.
Bien sûr. Donc, nous, on travaille sur un produit fermenté. Donc, tout le monde sait que le vin, plus il va fermenter longtemps, plus le vin s'améliorera et donc gagnera en arôme et en complexité. On est exactement sur les mêmes types de fabrication avec le pain. Donc, plus la fermentation sera lente et plus on prendra du temps pour développer les arômes, l'acidité, ben plus on aura un pain qui aura de la texture, où on aura ce jeu de texture entre la croûte qui va être épaisse, croquante, caramélisée, torréfiée, et puis l'intérieur de la mie qui, au contraire, elle va être grasse, moelleuse. Et puis plus on aura du pain qui se conservera aussi,
oui.
Parce que ça, c'est vraiment un des critères les plus importants aujourd'hui, c'est d'avoir des pains qu'on puisse garder 3-4 jours sans que ce soit soit des bâtons de bois, soit des éponges qu'on se plie, quoi. Ouais.
Julien, quelle est votre vision des choses? Et peut-être, est-ce que vous avez des céréales préférées?
Oui. Alors, déjà, ma vision des choses par rapport au pain, c'est vrai que la base, comme disait Anthony, c'est le temps. Enfin, le temps et les matières premières. Et surtout de ne pas avoir de vouloir trop se fier à une recette et vouloir croire que la recette marche tous les jours. C'est vraiment...
Parce que c'est du vivant.
Oui, c'est du vivant. C'est du vivant. Donc la fermentation, ça dépend de l'humidité, ça dépend de la température. Du coup, il faut pouvoir s'adapter. Il faut corriger sa recette de base un peu tous les jours en ayant vraiment ce qu'on appelle le toucher de la pâte, d'avoir vraiment... un peu du jugement par rapport à la pâte, savoir si faut rajouter un petit peu d'eau ou rajouter un peu de farine pour pouvoir avoir un résultat assez régulier. Voilà. C'est ça qui... C'est ce pain-là qu'on aime et c'est ça qui revient un peu, on va dire, à la mode et heureusement.
Ouais, c'est ça. Et avec une multitude de propositions, je vous repose la question. Quelle est votre céréale préférée? Quelles sont les céréales que vous travaillez aujourd'hui, où vous êtes allé chercher, où vous aimeriez aller chercher, Anthony?
Moi, ma céréale préférée actuellement, moi, c'est le seigle. Je trouve ça tellement bon, le seigle. Ça serait mon numéro un, le petit épeautre, que j'aime beaucoup. Et puis après, nous, on a d'autres variétés de blé. Actuellement, on travaille un blé ancien autrichien qui est vraiment très, très bon, qui a des notes un peu de papier azyme, mais qui a une mie mais ultra généreuse, très alvéolée. Voilà, là, c'est en ce moment, c'est un peu mes coups de cœur. Et puis voilà, suivant les découvertes que je veux faire à travers des agriculteurs qui vont nous proposer tel type de céréales, voilà, ça pourra changer.
Parce que désormais, un peu comme les cuisiniers qui vont dans les potagers, vous allez les chercher directement auprès des agriculteurs et vous travaillez... Si possible, directement avec les céréaliers.
On essaye de travailler en direct avec les agriculteurs. Après, voilà, nous aussi, on a notre activité qui fait qu'on ne peut pas se déplacer partout. Mais c'est un choix d'être... on parlait tout à l'heure de traçabilité. Y a une réelle traçabilité d'échange. Il y a un lien entre l'agriculteur qui va créer, faire ses céréales, nous qui le transformons et notre client. Et du coup, on a quand même de la chance d'être un peu entre les deux, en fait.
Et qu'est-ce qui fait une bonne viennoiserie, alors? On rajoute du beurre.
On rajoute du beurre, on rajoute un peu de sucre et puis on met du temps aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques années, on faisait des croissants en 3h30. Aujourd'hui, on va mettre du levain aussi dans les viennoiseries. On va aller chercher des arômes beaucoup plus lactiques. Donc du coup, on va travailler des levains complètement différents du pain. Donc là, on va plutôt chercher des goûts un peu plus acétiques, des goûts un peu plus vinaigres, des goûts un peu plus forts, un peu plus marqués. Et puis la viennoiserie, on a des schémas vraiment différents. Je pense qu'avec le croissant, ce qui va être vraiment bien, ça va être la fraîcheur, donc d'avoir des croissants qui sont cuits régulièrement tout au long de la journée. C'est des petites pièces. Et puis on voit de plus en plus arriver aussi maintenant des grosses brioches. Donc on trouve de plus en plus de Pantone, on trouve de plus en plus de brioches aux pralines et puis des brioches au levain en grosses pièces où on a des textures aussi qui sont ultra intéressantes.
Et d'ailleurs, il y a des vraies tendances. On retrouve quelques-unes des recettes dans l'ouvrage de chez Ferrandi. Mais Julien, qu'est-ce qui se vend le mieux chez vous? Qu'est-ce qui a la cote? Parce qu'on a vu qu'il y a eu la tendance Babka, il y a eu la tendance New York Roll, les brioches, vous disiez. Vous, qu'est-ce qui se vend le mieux chez vous?
C'est le pain chocolat qu'on appelle praliné, mais en fait c'est une barre de gianduja à l'intérieur, qui est le praliné italien, juste avec du beurre de cacao et de la noisette. Et en fait on fait un double feuilletage avec une des trempes dans laquelle on met de la poudre de cacao et on va coller, enfin on va dire tourer ces deux feuilletages ensemble, et après on va lamer le pain au chocolat pour faire apparaître la pâte chocolatée qui est en dessous. Et voilà, ça.
Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Ça met bien l'eau à la bouche. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est bien raconté. Chez 5, est-ce qu'il... Vous ne suivez pas forcément les tendances, mais qu'est-ce qui se vend mieux aujourd'hui?
Nous, ce qui vend le mieux chez Saint, le chausson aux pommes.
Ah oui?
Ouais. Bon, on a... voilà, on
il
a...
Est très spécifique aussi.
Il est très spécifique, ouais. Voilà, on utilise une vraie pâte feuilletée qu'on fait nous-mêmes. On lui donne des tours un peu différents de ce qu'on nous apprend. Et puis, on utilise tout simplement de la vraie pomme qui vient de certains vergers, suivant certains agriculteurs. Et c'est vrai que le croissant, on a une bonne... Enfin, on vend aussi pas mal de croissants parce qu'il a un goût assez particulier. SIN, c'est aussi l'acronyme de saveur, d'antan, ingrédients naturels. Et nous, vraiment, notre base, c'est d'utiliser les ingrédients les plus naturels possibles. Ça va du sucre. Le sucre, on n'utilise pas de sucre blanc, on n'utilise que des sucres non raffinés. Et ces sucres non raffinés, c'est de retrouver aussi le goût du produit de la canne à sucre, en fait. Parce que le sucre, tout le monde connaît son goût, mais s'il n'est pas raffiné, la canne à sucre, elle a vraiment des arômes très épicés, caramel, un peu vanillé. Et voilà, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Et on les travaille aussi avec un levain de lait.
Voilà. Vous écoutez tous les trois, je me dis, il y a quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que j'ai parlé aussi des babka, des New York Roll. Enfin, il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, on a quand même du choix en viennoiserie. On est passé à autre chose que chaussons aux pommes, pain aux raisins. Et voilà. Et pourtant, vous me disiez, quand on a préparé ce rendez-vous, Anthony, vous me disiez, je trouve que les Français manquent de créativité sur les viennoiseries.
Ouais, pourquoi? Parce que, ouais, vous l'avez dit, le New York Roll, ça vient pas de France. La babka, ça vient pas de France. C'est des choses qui sont piquées, en tous les cas, qui ont été reprises à droite, à gauche. Mais réellement, nous, je trouve qu'on remet un peu les choses au goût du jour, mais je trouve qu'on crée pas quelque chose de vraiment nouveau.
Didier, elle arrive la relève ou pas chez Ferrandi? Est-ce qu'ils sont un peu est-ce qu'ils ont des idées, les jeunes là, qui arrivent à qui?
Ah, ils ont des idées.
Bonnes idées.
ils ont des idées. Après, notre travail, du coup, c'est d'essayer de les mettre sur les rails pour être capable de réaliser ces idées. Parce que souvent, ils mettent la charrue un peu vers les bœufs. C'est-à-dire qu'avant de réaliser un bon croissant, ils veulent faire une création... vraiment tout à eux. Donc, il faut pour arriver à ce step-là, il faut déjà connaître les bases. Notre examen final avec les internationaux, d'ailleurs, c'est un examen de créativité aujourd'hui.
Ah oui.
Donc, on ne fait plus un examen où ils doivent faire une baguette, un croissant, etc. On leur demande de créer un pain, une viennoiserie et d'utiliser un de ces deux produits pour faire un produit traiteur.
Et est-ce que, alors, vous avez en tête peut-être une création qui vous a marqué?
Alors, sur la dernière examen créativité, j'avais un petit des croissants en forme de champignons construits en deux avec un jardin de crumble de chocolat. Enfin, voilà, j'avais une forêt de champignons sur un sol en gravier de crumble de chocolat. Et puis, j'avais une élève qui avait, dont le concept, c'était d'ouvrir un coffee shop et qui m'avait fait un carré de mini croissants. Donc, il y avait quatre croissants qui étaient... Et chaque croissant était garni avec une crème basée sur une des boissons qu'elle proposait au coffee shop. Donc, j'avais 16 croissants avec 16 garnitures différentes qui allaient du cocktail jusqu'au cappuccino, etc.
C'est pas mal, ça.
Ouais.
Et ça nous amène justement au sujet qui est votre actualité à tous les deux, Julien et Anthony, enfin, il y a quelques mois déjà, mais c'est qu'à un moment donné, la boulangerie, la viennoiserie, vous avez eu envie de la faire sortir un petit peu du carcan du pain quotidien, si j'ose dire. Julien, vous avez carrément ouvert un restaurant, mais en vous appuyant, le cœur du sujet, ça reste quand même la boulange.
Oui, ça reste la boulange. C'était juste une petite frustration de ne pas avoir de place assise, de pouvoir accueillir les clients et qu'ils passent un bon moment, qu'ils se fassent un super petit-déj avec tous nos produits et aussi d'avoir une extension de la cuisine pour pouvoir aussi fabriquer tous nos sandwichs dans le restaurant. Mais voilà, l'idée de base, c'était vraiment pouvoir servir des super cafés avec nos viennoiseries et voilà, dans toute simplicité, et rester sur le choix vraiment crucial sur les matières premières, comme on a fait depuis le début.
Et donc voilà, la prochaine étape, c'est peut-être l'accord café-viennoiserie. Il faudrait y réfléchir.
C'est ça, moi, ça me travaille depuis le début de réussir à... Surtout avec les machines à café là, qu'on a, on a souvent des shots perdus. Et depuis le début, on n'a pas encore réussi à trouver la bonne formule pour récupérer ces shots de café, pour les intégrer dans un...
Ah,
dans un bon produit.
Ça va innover.
Mais, tu vois, on a lancé un pain, nous, ouais. Avec tous ces shots de café qu'on perd, on a lancé un pain. On récupère toute cette eau de café, en fait. Et ben, on pétrit notre pâte avec du café, on rajoute du café en poudre. Et après, voilà, nous, on met des noisettes toastées et un peu de crème de marron.
Mais sur une pâte à pain.
Sur une pâte à pain, ouais. Okay. Et du coup, on propose ce pain-là. Et moi, après, enfin moi, pas moi, mais en tous les cas, dans l'argument de vente qu'on a auprès des vendeurs ou des vendeuses, c'est que ce pain... on le conseille de le manger avec une comment on appelle ça, une purée de une poêlée de champignons, les champignons café avec des cèpes, ça marche super bien, les noisettes, voilà, de après c'est aussi la manière de voir les choses.
C'est exactement ça la recette que vous venez de partager, et là, le questionnement, votre problématique, c'est aussi vous êtes des boulangers engagés dans le choix des produits, engagés aussi dans le recyclage des produits, ne pas trop gâcher, etc. Ça va. Et c'est un petit peu la tendance qui revient, selon vous, Didier, c'est qu'à un moment donné, on retrouve la base, le pain nourricier, voire presque un pain alicament, finalement, qui va arriver.
Bah c'est, en tout cas, dans tous nos... Dans toutes les réformes d'examen, aujourd'hui, on a ce paramètre santé et on parle d'alimentation. Donc là, on vient d'avoir une préconisation du ministère de l'Environnement, enfin de la Santé, pardon, pour baisser encore les doses de sel. Donc on a tout un tas de techniques aujourd'hui, une vraie tendance pour augmenter les quantités de vitamines, de fibres, de minéraux par le biais de la fermentation.
Oui, mais de façon naturelle, on est bien d'accord.
Évidemment, juste en utilisant la richesse du grain de céréales, qui était la base de l'alimentation il y a encore 100 ans. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être bien nourri quand on mange du pain.
Mmh. Effectivement, rien besoin de rajouter. À propos, le beurre aussi, on en a parlé, je pense qu'il y en a un petit peu moins qu'auparavant, mais est-ce qu'on peut faire des viennoiseries véganes? Ouais, Julien?
Oui, je sais qu'il y en a qui le font. Nous, on fait du feuilletage vegan pour nos tartes aux fruits. Mais voilà, après, moi, je sais que j'ai déjà goûté, enfin, avec un beurre végétal, une viennoiserie, c'est quand
ça,
même
ça
pas...
fonctionne
non, c'est non. Pas terrible, quand même. C'est pas... Il y a vraiment ce goût de beurre. Je trouve que ça marche très bien en pâtisserie, tout ce qui est végétal. Après, vraiment, les viennoiseries, comme on les connaît, vraiment, la pâte levée feuilletée... C'est pas terrible.
Ouais, sur le croissant, il y a encore c'est encore compliqué. C'est sur la brioche, on arrive à faire des choses.
Il y a des pourcentages de beurre qui sont tellement énormes qu'il y a quand même le goût
de beurre. Puis il y a quand même avec le beurre, il y a ce qu'on appelle, avec la cuisson, on appelle ça le beurre noisette à un moment. Il y a vraiment ce goût-là qu'on n'arrive pas à avoir avec une matière grasse végétale.
Alors,
mais c'est vrai que dans la brioche, c'est peut-être plus.
Si on a la brioche, on arrive à remplacer les œufs avec du potiron et des bananes. Enfin, on arrive à faire
même avec la brioche, ça marche. Okay, ouais.
Je vous conseille une recette végane qui est dans cette étude.
Très bien.
C'est vrai, vous m'avez parlé aussi de poudre de betterave avec des asperges. C'est vous aussi qui m'avez parlé de ça, non, pour les pains?
Ah ben, c'est quand on parlait d'Anthony, je crois.
Ah oui, c'est qui c'est qui
faisait
qui...
du pain avec des asperges quand j'étais venu.
Ouais, c'est vrai. Comme j'ai été cuisinier, en fait, vous voyez, les asperges, il y a toujours la partie verte de l'asperge qu'on appelle la fleur, qui est le haut, qui est le plus croquant, le plus gourmand. Puis il y a la tige qu'on se sert pas trop. Du coup, nous à la boulangerie, on récupère cette tige, on les cuisinait en fait. Et puis après, on faisait un mouillement de ces tiges-là, on les mixait et on les filtrait parce que l'asperge, c'est quand même assez fibreux. Et on récupérait cette eau-là, qui a du goût, parce qu'elle a vraiment un goût d'asperge. On récupérait cette eau-là pour faire notre pétrissage de pâte. Et après, on incorporait des asperges dedans.
Ouais, sacrée innovation quand même. On voit que le champ des possibles est ouvert.
C'est ça qui est fou. C'était juste avec 4 ingrédients de base, il y a vraiment un champ des possibles qui est juste...
Et alors, toutes ces personnes en reconversion, parce que j'imagine que vous en avez pas mal aussi, notamment sur le cursus international, elles amènent justement des visions différentes, puisque comme Anthony qui est passé par la cuisine, donc forcément, ils n'appréhendent pas tout à fait les choses de la même manière.
Non, complètement. Ils nourrissent nos métiers avec une vision complètement différente. C'est vrai qu'on se le dit souvent entre formateurs, en se disant... quand on voit les concepts que des adultes en conversion ouvrent, en disant « nous, on n'aurait jamais osé parce qu'on a un peu des œillères et si jamais on s'était installé, on n'aurait pas été aussi créatif, on n'aurait pas été aussi loin, on serait resté sur des modèles un peu plus connus ». Et d'avoir des gens qui arrivent avec des visions complètement différentes, ça ouvre vraiment les champs des possibles. Aujourd'hui, il y a des boulangeries qui ouvrent, où on ne fait que du pain, qui ouvrent à 16h le soir, à 19h c'est fermé. Enfin, il y a 10 ou 15 ans, jamais on n'aurait pu imaginer ça, quoi.
Et ça va peut-être permettre aussi, parce qu'il y a un sujet, j'imagine, de recrutement. Chez vous.
Très sérieux.
Ouais. Très sérieux. Julien, vous avez ce qu'il faut ou il vous manque encore des marges chez vous?
Mais c'est un vrai sujet. On va recevoir beaucoup de candidatures, quoi. Ouais. Voilà, on est quand même, on est à Paris, donc ouais. c'est pas le cas partout, mais à Paris, déjà, il y a toutes les écoles comme ouais. ici qui forment les personnes en reconversion. Et après, ces personnes-là vont chercher des stages, justement, dans les boulangeries qui ont du sens, qui font les choses bien. Et voilà, et c'est ça, c'est pour ça que si vous allez chez Anthony, vous allez... Enfin, moi, si je vais chez Anthony, je vais retrouver que des gens que je connais. Et pareil, la majorité des gens qui arrivent en stage chez nous, ils viennent de chez Saint, enfin, voilà.
Et c'est ça, parce qu'il y a quand même un réseau, ce que je disais tout à l'heure, sur Paris, on a la chance d'avoir un réseau de bons boulangers qui ont remis un petit peu la boulangerie artisanale et le vrai pain au goût du jour. Mais est-ce qu'il y a des femmes?
Ouais, moi je trouve que en boulangerie, on est à peu près à 50% de femmes en boulangerie.
Vraiment.
C'est vraiment un métier qui se féminise et vraiment je trouve ça très bien parce que dans les équipes ça harmonise un peu les choses en fait. Que d'avoir 4 boulangers, bah du coup il y a 2 boulangers, 2 femmes et je trouve qu'il y a vraiment une belle entraide qui se fait et c'est pas la même sensibilité. Franchement c'est chouette. Parce que en tant qu'apprenti, quand j'ai fait mon apprentissage, voilà, c'était que des garçons un peu bourrins, boulangers, tout ça. Là, du coup, quand je vois les équipes, je trouve ça chouette de voir cette mixité.
C'est beau, vous confirmez l'idée, les femmes se forment aussi à la boulangerie.
Donc elles sont beaucoup, elles sont très présentes maintenant en reconversion, dans le public en reconversion. Chez les jeunes, c'est encore un petit peu plus rare. Mais oui, elles apportent une personnalité qui est complètement différente. Alors, en termes social dans les équipes, je trouve que ça donne des ambiances qui sont complètement différentes. Et en effet, dans l'harmonie, dans le travail, elles ont une sensibilité aussi qui est souvent différente.
Ah, bah c'est bien, si les choses évoluent. Allez, dernier petit tour de table, très rapidement. Comment vous voyez évoluer votre métier? D'ici, allez, on va faire ne serait-ce que 5-10 ans, Julien.
Notre métier en général.
Oui, ce que vous allez proposer, votre boulangerie.
Nous, on va essayer de continuer à faire au mieux, d'aller chercher, d'améliorer sans cesse les matières premières, le sourcing, d'aller chercher, de monter en qualité. Et oui, travailler sur le recyclage des produits, sur le zéro déchet, d'essayer d'aller...
De pousser encore plus loin.
Oui, ouais. C'est ça. Voilà. Et même travailler. On essaie en ce moment de travailler, de commencer à travailler avec des personnes en réinsertion professionnelle aussi. Enfin, on a quelques contacts et bon, ça fait partie des choses qui sont intéressantes parce que faut pas oublier. Bon, il y a tout ce côté bien sûr reconversion professionnelle et avec beaucoup de personnes qui arrivent, qu'on fait aussi des grandes études et tout. Donc faut pas non plus
oublier
un peu les autres et aussi les emmener dans ce mouvement. Qu'on appelle néo-boulanger, que ce ne soit pas que des personnes qui ont fait des écoles de commerce qui se retrouvent dans nos labos aussi, parce qu'il y en a énormément.
Et c'est quelqu'un qui a fait une école de commerce qui le dit.
J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces personnes-là parce que c'est sûr qu'ils sont très très vite opérationnels, ils apprennent très vite, et puis je sais que moi, je n'ai pas besoin d'être là. Quoi. Enfin, je pense que des fois, c'est des personnes à qui on fait confiance, ça tourne bien. Quoi. Voilà. Mais il n'y a pas que ça non plus. Voilà.
Mais effectivement, vous donnez du sens à votre pain, vous donnez du sens à votre métier. Il faut que ce soit à tous les niveaux et de tous les côtés. Justement, Didier, comment vous voyez évoluer les choses?
Nous, ce qu'on voit de façon un peu plus globale, c'est qu'il y aura, je pense, deux évolutions très nettes. Avec des boulangeries avec de très très bonne qualité, avec une vraie réflexion, avec une vraie personnalité, avec des projets hyper bien pensés. Et puis d'un autre côté, une super standardisation des produits. Parce que dès qu'on sort un petit peu de Paris, on voit que les chaînes de boulangeries explosent et ouvrent 30 magasins par jour un petit peu partout. Que ce soit des choses vraiment très, très industrielles ou certaines où il y a un peu plus d'artisanat à l'intérieur. Mais ça reste quand même des choses qui sont très, très formatées avec la même recette dans celle de la boulangerie quand vous serez à Nice ou quand vous serez à Brest ou quand vous serez à Dunkerque. Donc, il va falloir choisir son camp quand on va, pour les jeunes qui sont en apprentissage. Il faudra qu'on leur présente les deux côtés et puis essayer de les orienter quand même plus vers la qualité, pour qu'ils puissent apprendre aussi à exprimer leur personnalité et à s'épanouir dans leur carrière professionnelle. Je pense que ça sera important.
Je voudrais juste, j'entends votre point, quand même rappeler qu'en province, il existe aussi d'excellentes boulangeries, sûr, et dans toute sûr. La France, parce que ça pourrait être pris de travers
votre point. Non, non,
et vraiment, on vous invite à aller les découvrir. Il y en a d'excellentes partout. Anthony, rapidement, comment vous voyez les choses?
Comment je vois les choses? Moi, la direction qu'on prend, comme celle de Julien aussi, c'est d'aller sur des choses beaucoup plus éco-responsables, solidaires. Et c'est vrai que nous, on fait tout un travail pour essayer d'avoir une labellisation auprès d'Écotable. Enfin, bon, c'est un label qui permet de justifier un peu notre démarche. Et après, moi, c'est vrai que la boulangerie en tant que telle, moi, je trouve qu'elle a une démarche maintenant d'accueillir les gens, comme Julien fait, comme nous on fait, d'accueillir les gens parce qu'on a envie de les recevoir, on a envie d'être plus présent avec eux. Et moi, je trouve que le maître mot de servir les gens, de les accueillir, c'est d'aimer les gens. Et vraiment, le fait de les accueillir sur une table, de leur offrir un petit déjeuner en plus, de pouvoir leur apporter quelque chose, une expérience en plus que juste prendre un croissant et repartir, je pense que la boulangerie va de plus en plus accueillir les gens et les asseoir, en fait.
Parfait, je pense qu'on a une bonne vision, mais ça va bien avec. Vous voyez, c'est autre chose que le croissant d'après footing, quoi. Ou que la baguette obligatoire le soir en rentrant du travail. C'est aussi tout autre chose aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs Didier, Julien, Anthony. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également aux équipes Ferrandi et Étienne Blanchard pour la réalisation de ce podcast. À bientôt, ou plutôt à demain, pour un nouvel épisode.